parle de mémorisation. Bon, pour qu'on se rappelle certains versets de la Bible. J'avoue que personnellement, je suis un piètre dans la mémorisation, surtout le texte que Christian Fraisse nous a donné ce matin. J'avoue que c'est bien pour se rappeler de certains noms. J'avoue que c'est intéressant de savoir qu'on peut appeler son fils Enoch ou Matata, si vous voulez, ou d'autres noms dans la parole de Dieu, mais ça reste des prénoms. Et voilà, il y a des modes aussi dans ce domaine, et on va laisser ça dans ce point-là pour l'instant. Mais il y a un texte que nous devrions mémoriser dans notre cœur et le connaître, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Alors je vais le lire pendant plusieurs fois pour le dimanche, mais au moins que nous puissions le connaître dans notre cœur, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc voilà un texte que nous devrions connaître par cœur, Galates 5, 22. Nous allons passer ce matin au deuxième fruit de l'esprit, la joie. Alors j'avoue que j'ai eu la joie à faire cette prédication et je voudrais regarder avec vous qu'est-ce que le dictionnaire, le petit Larousse dit sur la joie. Voici la définition du petit dictionnaire Larousse. C'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par la plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelque don qu'une inspiration. Un désir est satisfait ou en voie de l'être. Voilà la définition du petit Larousse. Une autre définition de la joie dans le dictionnaire biblique. Voici ce que le dictionnaire biblique dit d'Emmaüs. La joie est une émotion agréable et profonde. Elle peut être liée à une cause particulière. Par exemple, offrir un cadeau. La joie est aussi l'état de celui qui est une bonne conscience, entre guillemets, la paix. Qui n'a pas connu un moment de joie dans son existence? De ramener une bonne note à la maison. Maman, papa, j'ai eu 20 sur 20. J'ai eu 10 sur 10. Quelle joie, quelle satisfaction de rapporter des bonnes notes à la maison. D'avoir réussi un examen. Nous en avons eu un exemple ce matin. On a tous dit Amen, Alléluia. On aurait voulu que tout le monde ait le permis de conduire. Mais, n'est-ce pas, ça procure une joie. Moi, je me souviens, quand j'ai passé mon permis de conduire, c'était ma première prière demandée à Dieu. Et le jour, parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça, ça se fait plus comme ça maintenant, mais à l'époque, on vous disait en tête à tête, tu as réussi. Quand je me souviens de cette expérience, je me souviens que 7 personnes étaient là devant moi, que 6 personnes ont tous loupé. Je me disais, c'est ma journée aussi, je vais le louper. Et grâce à Dieu, j'ai eu mon permis de conduire ce jour-là. Mais une joie, une satisfaction, vous ne pouvez pas imaginer, je faisais des bonds sur le trottoir parce que j'avais mon permis de conduire. De toucher son premier salaire, de demander la main de son amoureuse. Moi, je me souviens quand mon épouse m'a dit oui, ah, quelle joie, je ne me suis pas mis à genoux. Aujourd'hui, c'est la mode, il faut se mettre à genoux, mais à l'époque, je ne me suis pas mis à genoux. Mais quelle joie quand elle m'a dit oui. D'apprendre que votre femme est enceinte pour la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la quatrième fois, c'est toujours une joie d'avoir un enfant dans un foyer. D'avoir reçu pour la première, ou la deuxième, ou la troisième fois, une promotion dans le travail. Vous savez, quand le patron vient vous voir et vous dit « Ah, tu vas être augmenté, Je suis satisfait de ton travail. Je vais te donner une promotion. Quelle joie, quelle satisfaction de vivre ce genre de joie. À ma connaissance, la joie est la seule chose à laquelle est partagée, quand elle est partagée avec d'autres, la valeur peut se doubler, se tripler, voire se quadrupler. C'est-à-dire, quand on partage nos joies avec d'autres personnes, on peut passer du fou rire aux larmes, on peut passer d'une joie, je dirais, intense, qui se vit pendant une certaine période de notre existence. Alors, ça, c'est les définitions que nous avons trouvées, que j'ai trouvées dans le dictionnaire du Petit Larousse, ou dans le dictionnaire biblique, et dans le monde, ce que nous pouvons vivre aussi. Mais je voudrais vous montrer un petit peu quelques fausses pistes avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à la joie. Notre monde, par les moyens de différentes philosophies, nous propose des joies. Vous avez dans ce monde plusieurs philosophes, je vais en citer deux, Spinoza et Nietzsche, nous ont parlé, nous ont proposé différents moyens pour obtenir de la joie dans notre cœur. Certains nous ont proposé, à un moment donné, de faire de la méditation. Alors, ils vous disent naturellement, bien écoute, si tu trouves un magnifique arbre, tu te mets au pied de cet arbre et puis tu médites. Tu fais le vide au pied de cet arbre et puis tu verras, tu vas avoir une joie profonde qui va venir en toi. D'autres, pour avoir la joie, on va vous dire, il faut lâcher prise. Tant que tu es stressé, tu n'as pas la joie. Mais si tu lâches prise, alors tu vas vivre la joie dans ton existence. D'autres vont vous dire, pour avoir la joie dans le cœur, vous devez devenir toi. Et on va vous mettre le toi de partout dans ton existence. Si tu veux avoir la joie dans ton cœur, il faut devenir toi. On vous propose aussi de se chercher personnellement. Alors, on va dire, si tu veux avoir de la joie dans ton cœur, il faut aller chercher ce que tu as au plus profond de ton cœur. Et tu peux avoir la joie. On nous dit aussi, pour avoir de la joie, il faut libérer la joie qui est en nous. Et alors, on vous propose d'assister à des groupes de joie ou à des groupes de fou rire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision. Pour avoir de la joie, il faut aller dans ces groupes. Alors, on va vous faire chercher le fou rire en vous. On va vous faire sortir ce que vous avez de joie en vous. Mais quand on regarde le problème par rapport à toutes ces philosophies qu'on nous propose dans notre monde, eh bien, cela dépend de nous. C'est-à-dire que ces choix doivent être créés, c'est-à-dire que nous devons créer un environnement, n'est-ce pas? Un arbre, il faut le chercher. Être assis auprès d'un arbre qui nous apporte, je dirais, du bien-être, il faut le chercher, cet arbre. Il faut aussi maintenir cette joie, c'est-à-dire que si nous recherchons impérativement cette joie, il faut la maintenir, il faut qu'elle dure cette joie. Parce que nous savons bien que bien souvent, tout dépend des circonstances et de l'atmosphère que nous vivons. Nous ne pouvons pas avoir un sourire de smiley, n'est-ce pas, à tout bout de champ, à tout croisement, à toute situation dans notre existence. Nous savons que le smiley, que quand vous êtes pris en photo, n'est-ce pas, sur la route, là, vous pouvez faire un magnifique smiley, si vous voulez, mais hormis ça, vous ne pouvez pas avoir de la joie dans toutes les circonstances. À la moindre contrariété de votre vie, la joie peut disparaître en un instant. Je voudrais vous montrer un verset de la Bible que j'ai trouvé durant cette semaine. Salomon, dans le livre des Proverbes, nous dit « au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir dans la détresse. C'est un verset qui se trouve dans la Bible. Salomon l'a dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir dans la détresse. Mais c'est une vérité. Il y a des fois, vous pouvez passer dans une situation d'un rire aux larmes. Et nous savons bien que ce rire-là, cette joie-là peut être éphémère dans notre existence. Quelques fausses pistes par rapport à la joie. Tout d'abord, le monde nous propose constamment des joies. Le monde nous propose la poursuite effrénée d'une star, d'une vedette. Et vous avez des milliers d'enfants, même chez les chrétiens, hein, même chez les chrétiens aujourd'hui, qui courent après la vedette, la star. C'est-à-dire que si on est proche de la personne, il y a une joie qui va venir à l'intérieur le jour où on est plus proche de la personne. Terminé, il n'y a plus de joie. Vous allez me dire, ouais Nicolas, tu exagères un petit peu. Mais dans le milieu évangélique, c'est exactement la même chose. Qui n'a pas couru après l'orateur, le prédicateur ou la personne de mode à l'heure actuelle? Du moment qu'il a un beau costume, du moment qu'on en a parlé sur Internet, alors il faut aller impérativement le voir. On ne sait jamais, peut-être Dieu va l'inspirer. C'est exactement la même chose dans nos milieux évangéliques parfois. Et dire que la Bible nous dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». S'approcher sur les choses matérielles. Le monde connaît votre cœur. Si vous, vous ne le connaissez pas, votre cœur, le monde connaît votre cœur. J'ai entendu récemment, je n'avais pas le moral. Alors je suis allé acheter une nouvelle paire de chaussures. Et cela m'a rendu la joie. Ouais, chérie, t'en as déjà une centaine. Bon, ça fera 101e paire de godasses. Mais vous savez, c'est ce genre de joie qui deviennent des joies éphémères dans notre monde. Je vous en donne un exemple. Qui n'a pas couru derrière la 3G? Qui n'a pas couru après la 4G? Qui n'a pas couru après la 5G? Et je vous rassure, on n'est qu'au commencement des G. Ils vont vous créer la 6G, la 7G, la 8G. Tout simplement pour que vous puissiez avoir le dernier modèle dans votre poche. Mais reconnaissons-le, c'est que matériel, n'est-ce pas? À moins que votre téléphone devienne une idole. Moi, je m'aperçois que ça devient un produit de technologie. Je ne peux plus m'en séparer. Je l'ai mis au premier étage parce que j'ai peur qu'il sonne pendant ma prédication. Mais, n'est-ce pas, on peut être influencé par notre téléphone portable. La course effrénée sur les choses matérielles. Oui, ça peut nous procurer de la joie, mais on sait très bien que c'est momentané. Vous n'aurez pas de téléphone portable dans le ciel. Je suis en train de vous décourager peut-être, mais vous n'aurez pas de téléphone portable dans le ciel. Faites tout ce que vous voulez. Les pharaons ont déjà à l'époque pensé que dans l'éternité, ils allaient emporter de la nourriture, ils allaient emporter des choses matérielles. Et aujourd'hui, quand on les retrouve, les tombeaux qu'on retrouve des pharaons, eh bien, il y a toujours la nourriture, il y avait bien le matériel, il y avait le fauteuil, il y en avait même qui prévoyaient, même certains esclaves, on ne sait jamais dans l'éternité. Nous n'emportons rien du tout dans l'éternité. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour gentiment, « Nu tu es né, nu tu repartiras. » Même mon bon plat de spaghetti, je vais être obligé de le laisser ici. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, il n'y aura pas de spaghetti avec moi. Il y aura peut-être des spaghettis parce qu'on n'a pas voulu en mettre à ça dans le cercueil, mais je ne pourrai pas la manquer. Voyez-vous, il y a des choses qui sont éphémères, qui durent quelques instants, n'est-ce pas, quand on les regarde. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. S'accrocher à ce que nous faisons pour Dieu. On a un exemple dans la Bible qui est flagrant. Dans la Bible, vous avez un roi qui a été choisi par Israël, Saül. Et quand on le regarde, j'ai eu l'occasion dans ma méditation de méditer durant 2 semaines sur ce roi. Et on s'aperçoit que Saül a été une flèche pour Dieu. C'est-à-dire, dès le départ, il a travaillé, il a œuvré pour Dieu, il a prophétisé, la Bible nous dit qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais assez rapidement, quand il était en haut de son existence, eh bien, il est redescendu assez rapidement. Parce que, à un moment donné, il s'en est orgueilli de sa situation. Il a mis l'orgueil à la première place. Il a été colérique, il s'est irrité contre certaines situations. Et assez rapidement, pouf, il est retombé. Parce qu'à un moment donné, eh bien, il y avait de l'insatisfaction dans le cœur. Dans son cœur, il y a eu de l'insatisfaction. Donc, il s'attendait à voir des choses de la part de Dieu. Il a pris des initiatives personnelles sans Dieu. Et Dieu lui a dit, ben maintenant c'est terminé. Samuel est allé le voir. Il lui dit, arrête de pleurer sur Saül. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Saül, c'est terminé. Et je crois qu'à un moment donné, ces joies, n'est-ce pas, nous procurent pour un temps certaines choses et peuvent nous éloigner complètement de Dieu si on n'y prend pas garde. Si on ne prend pas garde au mécontentement, à l'égoïsme, à l'orgueil, à la colère, à l'irritation, au péché de la langue, on peut tous tomber. On peut tous tomber si on n'y prend pas garde. Dieu œuvre dans notre cœur à condition qu'on laisse travailler Dieu dans notre cœur. Si on ne laisse pas Dieu travailler dans notre cœur, on peut tous tomber dans ce genre de péché. La place de la joie dans la Bible, elle est nombreuse. Je ne vais pas vous lire les 120 références qui se trouvent dans la parole de Dieu, mais dans la Bible, il y a 120 références qui font partager la joie. Et on le voit que dès la création, même avant la création de l'homme, il y avait de la joie dans le ciel. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de l'homme poussaient des cris de joie. Job, chapitre 38, verset 7. C'est-à-dire, avant que Dieu crée l'homme, j'imagine Dieu dans l'éternité, dans le ciel, dire, tiens, voilà, je vais envoyer l'ours dans le ciel. Je vais envoyer Jupiter, je vais envoyer la planète Terre dans le ciel. Vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, Dieu se réjouissait de faire la création. Dieu se réjouit en faisant la création. Nous, est-ce qu'on s'en réjouit quand on voit la création de Dieu? Mais Dieu s'en est réjoui dans le ciel. Notre Dieu était un Dieu joyeux. Ésaïe, chapitre 65, verset 18, nous dit « Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » C'est-à-dire que quand Dieu a créé Jérusalem, il s'en est réjoui dans le cœur. Dieu lui-même participe à cette joie. Ésaïe 65, verset 19. « Je ferai de mon peuple ma joie. » Alors, je ne sais pas s'il peut se réjouir de vous. J'espère, en tout cas, qu'il se réjouit de vous. En vous voyant, en vous regardant, j'espère que Dieu se réjouit de vous. Donc la joie dans la Bible a une place très importante. Troisième point, la source de la joie. Quelle est la source de la joie? Quand on regarde la parole de Dieu, eh bien Dieu doit nous procurer cette joie dans notre cœur. quand on regarde sa création, quand on regarde son œuvre, quand on regarde la parole de Dieu, quand on prend le temps de méditer la parole de Dieu, cela doit nous procurer de la joie. Prendre du temps dans la méditation de la parole de Dieu doit nous procurer de la joie dans notre cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Psaume 9, versets 2 et 3. Notre vie doit être plongée en Dieu. Si nous sommes un enfant de Dieu, notre vie doit être plongée dans le Seigneur. Il y a d'abondante joie devant ta face. Psaume 16, verset 11. Mon âme aura de la joie en l'Éternel. Psaume 35, verset 9. Un grand prédicateur, Charles Spurgeon, prince des prédicateurs au 19e siècle, il a dit ceci un jour dans une de ses prédications. Plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde, perdez-vous dans son immensité et vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une bonne vigueur. Alors je ne sais pas si vous vous plongez en l'immensité de Dieu, mais si tu veux te reposer, te rafraîchir, avoir une pleine vigueur, je pense que c'est de notre responsabilité de nous plonger. Parce qu'il y a d'abondante joie devant la face, devant ta face, nous dit le psaume 16, verset 11. J'ai parlé de Dieu, ça c'est la première source. La deuxième source, c'est Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ l'a dit dans sa parole. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 5, verset 11. Est-ce que nous avons la joie de Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons partager cette joie les uns les autres? Est-ce que cette joie fait partie de votre vie dans toute votre existence? La Bible nous dit que Jésus sera un sujet de joie pour le peuple. Pardon, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Jésus a dit aussi dans l'évangile de Luc, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples un sujet d'une grande joie. » Est-ce que Jésus-Christ est vraiment un sujet d'une grande joie dans votre vie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le vivez dans votre quotidien, cette affaire? Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Moi, je ne sais pas si vous vous levez le matin, vous dites dans votre esprit, je suis écrit dans le livre de la vie. Ça fait passer pour moi une bonne journée. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis heureux de savoir que je suis écrit dans le livre de la vie. Parce que dans la Bible, il est écrit ceci, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça laisse quand même à réfléchir pour ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est le sauveur du monde. S'il y a certaines personnes qui, ce matin, ici, n'ont pas compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour sauver, pour vous sauver personnellement, réfléchissez bien. Hein. Parce que réjouissez-vous de ce que vous êtes écrit dans le livre, dans les écrits dans les cieux. Je suis convaincu dans mon cœur que je suis écrit dans ce livre. Hein. Chaque matin que je me lève, je suis dans la joie du Seigneur. Ça ne se voit pas tout le temps. Surtout quand je reçois des impôts, ça ne se voit pas. Mais j'ai la joie du Seigneur, n'est-ce pas? J'ai la joie du Seigneur qui doit se manifester en tout cas. Quatrième point, les caractéristiques de cette joie. C'est une joie qui dure. Je vais insister. C'est une joie qui dure. La Bible dit ceci dans Ésaïe 60, verset 15. Je ferai de toi un sujet de joie de génération en génération. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de tomber sur ce genre de verset, de savoir que Dieu Quand il parle de la joie, c'est quelque chose qui va durer de génération en génération. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Le psaume 5, verset 12. Les rachetés de l'Éternel retrouveront et ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Oui, c'est une joie qui a été partagée à Israël. Mais nous faisons partie d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire dans le sens spirituel. Dieu nous a rattachés au peuple de Dieu. Et nous avons besoin de nous rappeler que ce chant, cette allégresse, va durer dans l'éternité avec Dieu. Première caractéristique, une joie qui dure. Deuxième caractéristique, c'est une joie qui s'exprime. Alors j'ai regardé un petit peu dans la parole de Dieu comment la nation d'Israël pouvait exprimer la joie. Dieu a créé pour Israël cette fête pour qu'ils manifestent leur joie. Si vous allez dans le livre de Lévitique, chapitre 23, vous avez une série de fêtes créées par Dieu pour que Israël, pendant toute l'année, puisse avoir de la joie dans leur cœur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le calendrier hébraïque commence à partir du printemps, d'accord ? C'est pas comme nous, hein. Nous on commence à partir de janvier. Mais Israël commence à partir du printemps. Et à partir de cette date, d'accord, Dieu a créé la première fête, c'est quoi ? En Israël ? La Pâque. À partir du printemps, Israël doit commémorer la délivrance d'Israël dans la sortie d'Égypte. Et il y avait là une commémoration de la part de Dieu, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient le sang de l'agneau sur les linteaux, eh bien, la mort est passée sur leur maison. Et Israël devait chaque année, au printemps, fêter cette fête. Ça durait peut-être un jour ou deux, ça durait certaines une semaine, mais ils devaient fêter cette fête pour se rappeler de cela. Il y avait ensuite la fête des pains sans levain. C'était une fête qui est liée à la précédente, elle durait une semaine. Dieu avait tout prévu. Troisième fête, la fête des semaines, que nous appelons nous aujourd'hui la Pentecôte, que l'Église appelle la Pentecôte. C'est-à-dire que 7 semaines après la Pâque, eh bien Dieu avait créé là une fête pour Israël, pour qu'ils se réjouissent dans le Seigneur. Quatrième fête, la fête des prémices, c'est-à-dire c'est la fête des remerciements, des moissons, des offrandes, c'est-à-dire que quand on avait apporté, je dirais, quand on avait réussi un petit peu dans la vie, eh bien certaines personnes devaient se réjouir de cela, et Dieu avait prévu une fête de joie ce jour-là, et on apportait des choses pour louer, pour remercier le Seigneur. Vous avez l'équivalent aujourd'hui dans les pays anglo-saxons de Thanksgiving, excusez-moi de la prononciation, c'est la fête de la reconnaissance. Et je me dis, on devrait créer ça dans notre église à Marolles-sur-Seine. La fête de la reconnaissance. On devrait dire, tiens voilà, au moins on va se réjouir ce jour-là avec le Seigneur. Vous avez une cinquième fête, la fête des trompettes, qui symbolisait le futur rassemblement du peuple d'Israël, jour du repos et de sacrifice en Israël. La sixième fête, la fête de l'expiation, le jour de l'humiliation, de la repentance accompagnée de jeûne. Dieu avait tout fait, avait géré la nation d'Israël durant toute une année. Et enfin, la dernière, la fête du tabernacle, qui est le septième jour, donc le repos, ou appelé aussi la fête des cabanes, hein, en Israël, eh bien, c'était l'occasion de pouvoir se réjouir dans le Seigneur. C'est des moments de joie, de liesse, de chant, de danse. Si vous regardez certains psaumes, eh bien, vous voyez que Dieu a mis vraiment l'accent dans ce domaine. Psaume 96, versets 1 à 12. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la tête, de la terre, pardon. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez-le de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que les campagnes s'égaient avec tout ce qu'elles renferment. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Moi, j'ai envie de pousser des cris de joie. J'ai pas envie que mon arbre pousse à ma place des cris de joie. Dieu avait tout prévu pour que le peuple soit dans la joie. Je viens de vous parler de l'Ancien Testament. Dieu a créé pour la nation d'Israël des moments de joie. Et pour nous alors? Ben, je vous l'ai dit ce matin, puisque nous avons tout pleinement en Christ, aujourd'hui on peut se réjouir 376 jours de l'année, puisque nous avons tout en Christ. Si Dieu dans l'Ancien Testament avait procuré à Israël des moments de joie, nous tous les matins, dans notre douche ou ailleurs, on devrait pousser des cris de joie. On devrait se réjouir dans le Seigneur. Cinquième point, les bienfaits de la joie. Cela est une force intérieure. Si Dieu vous dit, eh bien, demande-moi de la joie, que dans ta vie il y ait de la joie, que demande-moi avec foi dans ta vie qu'il y ait de la joie. Pourquoi? Parce que ça va te donner une force intérieure. Néhémie chapitre 8, verset 10, qui nous dit « La joie de l'Éternel sera votre force. » S'il y avait un verset de la Bible que je voudrais que vous mémorisiez aujourd'hui, c'est bien celui-là. « La joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie chapitre 8, verset 10. Quand on regarde la vie de Néhémie, elle n'a pas été facile. Hein. L'histoire de la vie de Néhémie n'est pas facile. Hein. Quand on voit qu'il a été attaqué autant de l'extérieur que de l'intérieur, je m'explique. Les ennemis de l'extérieur, ils s'appelaient Sambala, Oronite et Tobija, Gichem, ça c'était les ennemis visibles que Néhémie avait. Et qui l'insultait, qui venait le voir, qui voulait lui faire du tort, qui voulait lui faire du mal. Eh bien, heureusement que la joie de l'Éternel était sa force. Hein. Parce que ça ne devait pas être toujours facile. Hein. Dans le projet que Néhémie avait, c'était de reconstruire le mur de Jérusalem. Il a reconstruit en 51 jours le mur de Jérusalem. Heureusement que la joie de l'Éternel faisait la force de Néhémie. Les ennemis de l'intérieur maintenant, parce qu'il y en avait aussi des ennemis de l'intérieur. Si vous regardez certains passages de la parole, au chapitre 5 du livre de Néhémie, vous allez voir qu'à un moment donné, Néhémie a dénoncé la cupidité du peuple. Parce qu'à un moment donné, le peuple profitait des biens matériels des autres frères. Alors, Néhémie, c'est offusqué de ça, à un moment donné, et il s'est levé, et il a dit, mais c'est pas bon ça, c'est pas bon ce que vous êtes en train de faire, cela ne glorifie pas le Seigneur. Je me dis, voilà, une bonne chose que la joie dans le cœur de cet homme a procuré de la force, ça a procuré du bien dans sa vie de tous les jours, et ce fruit de l'esprit doit nous procurer de la force, mes frères et sœurs. Si ce fruit de l'esprit est dans la parole de Dieu, c'est que nous devons le pratiquer. Nous devons pratiquer l'amour, c'est vrai, mais nous devons pratiquer aussi ce fruit de l'esprit qui est la joie dans notre vie de tous les jours. Un deuxième bienfait, c'est que la joie nous aide dans les épreuves. Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La joie vous fait traverser des montagnes. La joie procure, je dirais, un bienfait dans les moments les plus difficiles de votre existence. Nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves. La Bible le dit clairement. Pourquoi elle dit ça? Eh bien, tout simplement parce que par l'épreuve, cela va vous emmener quoi? De la patience, et on en a besoin. Qui n'a pas besoin de patience ici ce matin? On a tous besoin de la patience. Pensez que vous êtes arrivé à la perfection dans ce domaine. Je suis persuadé que si vous pensez ça, un esprit, donc enlevez ça de votre esprit, parce que Dieu, dès lundi matin, à partir de 8h, va vous envoyer une épreuve. Enfin, je vous le dis franchement, hein, des fois, vous savez, intellectuellement, on peut dire, voilà, je suis au summum de ma vie. Hein. Je n'ai pas besoin de patience. Hein. Des fois, le lundi matin, on trouve une situation, on dit, peut-être que là, le Seigneur va m'apprendre quelque chose de nouveau. La patience, la persévérance, on en a besoin, frère, hein, de ne pas abandonner inutilement, pour n'importe quoi, parce que nous sommes dans l'insatisfaction sur certaines choses. Non, non, on a besoin de persévérance. Et dans notre société aujourd'hui, au 21e siècle, on a besoin de persévérance en tant que chrétien. Et enfin, de la maturité chrétienne, c'est-à-dire que cette joie va procurer en nous un bienfait pour que nous puissions grandir. C'est-à-dire que les erreurs du passé, on ne les fait plus. Hein, ce qu'on a fait avant, eh bien, si vous grandissez spirituellement, en principe, quand vous dites à votre enfant « ne touche pas », et que vous l'avez eu une fois avec une tape, en règle générale, il ne reviendra pas. Quand vous connaissez vos enfants, bien souvent, ils sont désobéissants, et ils vont revenir une fois, deux fois, trois fois. Moi, je me souviens, quand mon père disait quelque chose à la maison, c'était terminé, le silence était d'or autour de la table. On ne bougeait pas. Il n'y avait pas besoin de bâton, de martinet, de se lever, de crier. Non. Une parole était, c'était terminé. Parce qu'on savait, dans notre tête, mon père nous avait bien formé dans ce domaine, que si on bougeait, alors là, je vous raconte même pas. Derrière cette chair, ce n'est pas possible de vous raconter certaines expériences vécues. Parce que Dieu avait mis l'autorité sur mon père. Et on savait que c'était l'autorité à la maison. Mais ça m'a fait du bien. Mon père n'était pas dans l'évangile. Mon père n'a jamais été. Il n'a jamais été contre Dieu. Mais ce n'était pas son truc à la maison. Mais il avait une éducation pour ses enfants. Et aujourd'hui, je le dis, hein, mon père était peut-être un païen, mais à la maison, on était respectueux de mon père et de ma mère. Ça nous donnait une ligne directive à la maison. Oui, la joie va procurer de la patience, de la persévérance, de la maturité spirituelle. Nous en avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Ce fruit de l'esprit doit être manifesté dans notre existence. Je voudrais terminer ma prédication ce matin par la lecture d'un psaume, quelques versets dans ce psaume, le psaume 95, afin que vous puissiez la semaine le méditer. Psaume 95, les versets 1 à 7. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussez des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les cieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple qui est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, que nous puissions méditer durant la semaine ces quelques versets. La joie de l'Éternel sera ma force. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen.